En fait, on s'est pas vraiment arrêté parce que dans le texte, on va continuer. On a l'un des chants qu'on a chanté vers la fin, ça disait avec les saints, je serai captivé par ta gloire. Rappelez. Puis un autre chant un peu après, montre-moi l'amour du Père. Et donc je propose de lire ensemble dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. C'est la prière de Jésus. La prière de Jésus, notre souverain sacrificateur, celle que lui seul pouvait faire. Et en lisant ça, eh bien, ça nous captive. Et probablement nulle part ailleurs, nulle part plus fort que là, dans toute la Bible, on ne voit l'amour du Père. Parce que là, l'amour du Père, il est dit, confessé et désiré par Jésus lui-même. Or, qui connaît parfaitement l'amour du Père? Le Fils unique. Et c'est lui qui nous l'ouvre. Je vais commencer par le verset 24 du chapitre 17 de Jean, puis après on ira au premier verset. Donc Jean 17, 24, Père, donc c'est Jésus qui prie, Père, je veux, il n'y a pas dit beaucoup de je veux dans la Bible, Jésus. Mais là, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ce seul verset, c'est incroyable tout ce qu'il dit. Jésus est en train de prier et il demande plein de choses à son Père dans le chapitre et là, il dit ce qu'il veut. Que veut Jésus? Et là, il ne parle pas à nous, hein? Il parle à Dieu. Que veut Jésus? Entre Dieu et Jésus, qu'est-ce qui se passe? Que veut Jésus? Et il dit, je veux que là où je suis, au présent, donc éternellement, dans l'éternité, là où je suis, ceux que tu m'as donnés, mes disciples, les plus jeunes, les plus âgés, ceux que tu m'as donnés, soient aussi avec moi. Que veut Jésus? Que tu sois avec lui dans l'éternité. Et il dit pourquoi? Pourquoi il le veut? Je le veux afin que quoi? Alors, le reste de la Bible nous montre que quand le Seigneur reviendra, comme nous l'avons chanté, et nous prendra avec lui, là, il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni cris, ni douleur. Mais ici, Jésus ne dit pas, je veux qu'il soit avec moi afin qu'il n'ait plus de douleur, ce qui est parfaitement vrai, qu'il n'y aura plus de douleur. Il dit, afin qu'il voie ma gloire, qu'il me voie tel que je suis, avec tout ce que toi, Père, tu m'as donné. Et pourquoi est-ce que Jésus demande ça? Alors, ce n'est pas que lui a besoin d'être vu, hein, on va rester dans le raisonnable, dans ce qui est conforme aux Écritures. Pourquoi il dit ça? Parce que le salut, le bonheur éternel ne consiste pas seulement, de la part de Dieu, à nous enlever le malheur. Ce n'est pas seulement enlever le mal, enlever la souffrance, et s'il n'y a plus de souffrance, ben ils sont contents. Dans un sens, oui. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit là. Il dit, je veux qu'il soit avec moi, afin qu'il voie ma gloire. C'est-à-dire que Dieu ne se contente pas d'enlever la douleur, le deuil, les larmes, les cris, et toute la corruption, la mort. Il ne se contente pas d'enlever, mais il donne le bonheur, la vie. Et le bonheur consiste en quoi ? Voir Jésus. Alors, adolescent ou très âgé, quand des gens tombent amoureux, ils demandent quoi ? Juste d'être pas trop loin de l'autre. Tu peux leur dire, tu sais, mais moi j'ai une belle voiture, viens, je vais te montrer. Mais non ! Et moi j'ai un diplôme. Mais non ! Enfin, vous voyez, papy il a un château. Non, non, non. Alors, la comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, mais afin qu'il voie ma gloire. Parce que quand nous verrons sa gloire pleinement, sans voile, pour le moment, c'est les yeux du cœur qui voient sa gloire, principalement par les Écritures, lesquelles sont remplies d'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui est leur auteur. Donc, par les Écritures, par l'Esprit Saint, nous voyons en partie la gloire de Jésus. Et c'est pour ça que c'est si beau de lire, et spécialement des textes qui aident à l'admirer. Mais, donc pour le moment, nous voyons en partie, nous connaissons en partie, mais quand il nous aura pris avec lui, nous le verrons tel qu'il est. Et c'est ça qui nous comblera. C'est ça qui nous comblera. Amen. La foi chrétienne consiste au moins autant en admiration envers le Seigneur qu'en conviction de ce qu'il peut faire. Ou de ce qu'il peut donner. Maintenant, on va au verset premier du chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père !» Et là, il faut que je m'arrête. Après avoir ainsi parlé, forcément, ça nous réfère à ce qu'il y a avant. Et pourquoi je m'arrête au mot « Père » pour qu'on réalise que tout ce qui suit, le chapitre entier en vérité, Jésus parle à son Père. Il ne parle pas aux disciples. Je pense que l'un ou l'autre, globalement, on s'en rappelle. Dans les évangiles, ou plutôt quand les évangiles nous rapportent que Jésus allait prier, quasiment tout le temps, il se retire seul. Et ça fait quoi ? Ça fait que les disciples ne sont pas là et n'entendent pas ce qu'il dit à Dieu. À une ou deux occasions, les disciples entendent. Et là, ils ont un chapitre entier, enfin ils ont la prière entière, et ils entendent. Et Jésus a tenu à ce qu'ils entendent ce qu'il va dire à Dieu. Et ce qui me bénit, moi le premier qui en parle, mais tous ensemble, ce qui nous bénit le plus dans ce chapitre, c'est que Jésus ne nous parle pas à nous. Cependant, ça commence par « après avoir ainsi parlé ». Et alors, qu'est-ce qu'il a dit ? À qui il parlait au chapitre 16 ? À ses disciples. À qui il parlait au chapitre 15 ? Sans moi, vous ne pouvez rien faire, je suis le sais, vous êtes les sarments, c'est moi qui vous ai choisi, etc. Voilà. À qui il parlait au chapitre 14 ? Je prierai le Père, il vous enverra l'Esprit de vérité. À qui il parlait au chapitre 13, quand il leur lave les pieds et qu'il leur dit « Faites comme je vous ai fait », etc. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, aux disciples. Donc chapitre 13, il leur parle. Il leur parle. Et c'est chapitre-là, 13, ça, si vous voulez, 13, 14, 15, 16, dans l'évangile de Jean, ça, c'est un très court moment en fait. Quelques heures, je ne sais pas, voilà. C'est difficile à dire, mais ce n'est pas long. Il leur parle, et depuis le début de son ministère, il leur parle. Et là, on arrive au chapitre 17, après avoir ainsi parlé à eux, il leva les yeux au ciel. Ce qui ne veut pas dire qu'il les oublie, mais on va changer d'étage. On va passer au premier étage. Façon de dire. Et il dit « Père ». Et là, il ne leur parle plus. Mais il va leur donner à entendre, en l'occurrence, parce qu'ils sont, Dieu a voulu qu'ils entendent. Et même Dieu a voulu, par son esprit, que bien plus tard, l'apôtre Jean écrive ces choses pour que nous aussi, on entende ce que Jésus a dit au Père. Alors certes, ce que Jésus dit au Père est massivement, à notre bénéfice. Mais le vrai bénéfice, c'est quand on est saisi par ce qui se passe entre lui et Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Qu'est-ce qu'il veut ? On a vu déjà une partie de ce qu'il veut. Voilà. Père, l'heure est venue. C'est l'heure de la croix. Dès le premier verset du chapitre suivant, ils descendent et ils vont dans un jardin. Et là, ce n'est pas précisé le nom du jardin, mais c'est Gethsémané. Donc c'est là où il endosse la position du coupable et où il accepte, hein, « Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Voilà. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » Si ce n'est pas Jésus qui est en train de parler à Dieu, et que simplement on lit ça avec notre petit cerveau, on dit « Tiens, pourquoi Jésus demande d'être glorifié ? Est-ce qu'il y a là quelque égoïsme ?» Non. Père, l'heure est venue, c'est l'heure de la croix. Et la demande d'être glorifié est en rapport avec la croix. Jésus demande à Dieu qu'au moment où il va être arrêté, crucifié, et voilà, tout ça, que ça, ce soit à la gloire de Dieu. Mais aussi à la sienne. C'est-à-dire que son sacrifice montre sa gloire. Et tous les vrais chrétiens savent que c'est le cas. Et ce matin, d'une manière ou d'une autre, en prière, ou dans le silence des cœurs, ou quand quelqu'un chante en langue, ou dans les chants, on a dit, la croix, c'est ta gloire. Glorifie ton Fils. C'est d'autant plus, on sait que la mise à mort sur la croix, c'était une mise à mort infamante, honteuse, le crucifié était nu, entièrement nu. Et c'était pour les pires. Cette façon d'être exécuté, c'était pour les pires. Et Jésus y prie. Et ce n'est pas son souci, la honte humaine, la honte physique. Son souci, c'est la gloire de Dieu. Et rien que là, déjà, on voit à quel point, si vous voulez, dès le début, Jésus se montre assez... Pardon, je vais essayer de le formuler bien. Jésus oui, d'une certaine manière, en priant près de eux et donc à leurs oreilles, en priant à Dieu, il leur montre, il leur donne à sentir et à réaliser que, ou plutôt, à quel point ce qui l'intéresse vraiment, c'est son Père, et c'est la gloire de son Père. Et même quand il demande à être glorifié en tant que crucifié, c'est afin que ton Fils te glorifie. Afin que le Fils te glorifie. Il ne faut pas, si, comment dire, il est normal quand on lit ce chapitre 17, qu'on a un peu envie de dire, mais ça me passe bien au-dessus, hein? Ben oui, par définition. Et moi, le premier, ça me passe bien au-dessus. Simplement, la plus grande, je ne peux pas recevoir de plus grande bénédiction que ce qui est au-dessus. Heureusement que ça me passe au-dessus, parce que si ça me passait dessous, je ne serais pas très très béni. Voyez, ça se passe entre Jésus et le Père, entre le Fils unique et le Père. Pas un mot du chapitre n'est adressé directement aux disciples, mais le fait que ça se passe entre le Fils et le Père, c'est leur bénéfice maximum. Et ils passeront l'éternité à admirer et à être captivés par le Père et le Fils. Et au niveau d'amour, premièrement par l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. On a lu le verset 24 tout à l'heure, c'est pendant les chants que j'ai ressenti de commencer par le verset 24. Tu m'as aimé. Mais Jésus, il dit, là il ne dit pas aux disciples, le Père vous a aimé. Ça, il leur dit au chapitre 16, le Père lui-même vous aime. Mais là il ne dit pas ça, il dit tu m'as aimé. Alors, l'amour de Dieu pour ses élus, pour ses rachetés, ses enfants, et l'amour de Dieu pour son Fils unique. Lequel des deux est en amont de l'autre? Lequel est avant l'autre? Mais oui, le Père aime premièrement son Fils unique. Et en quoi il nous aime, nous? En ce qu'il nous donne son Fils. La formulation, le mot que je vais employer ici est étrange. Il est en tout cas, je pense qu'on peut beaucoup l'améliorer, on peut trouver beaucoup mieux, mais d'une certaine manière, ce n'est pas directement que Dieu nous aime. C'est l'amour qu'il a pour son Fils, il nous l'ouvre. Si vous voulez, il aime son Fils au 50e étage, et puis au sous-sol, il m'aime aussi. Vous voyez, voilà. Donc, du moment qu'il est clair, parce que c'est le dernier verset, je vais lire les derniers mots de la prière, c'est le verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. » Encore, je ne les lâcherai pas, je te ferai connaître à eux. Je te ferai connaître à eux. Et pourquoi? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en eux. Comment Christ est en moi? Par le fait que Dieu aime Christ et qu'il l'a donné pour moi. Donc, le cœur du cœur de tout, c'est que si Dieu m'aime, c'est en m'ouvrant, en me faisant participer à l'amour qu'il a pour Jésus. C'est pour ça que j'ai parlé de 50e étage et de sous-sol. On a lu le premier verset, c'est pas mal déjà. Mais les paroles de Jésus, des fois, tu dis, je vais tout lire, je vais essayer de tout comprendre, puis des fois, même pas une phrase. Et ça y est, déjà, tu es saisi. Afin que le Fils te glorifie, et là, verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Comment Jésus est en train de dire au Père, en tant que ton Fils éternel, unique, je vais te glorifier. En quoi? Conformément à quoi? À ce que toi tu as donné. Tu m'as donné le pouvoir sur toute chair. Tout le chapitre, là, bon, ce matin, bien sûr, je ne peux pas tout développer, mais si vous le lisez tranquillement, là, dans la semaine, ou quand vous voulez, ou jour et nuit, vous verrez le nombre de fois où Jésus emploie le verbe donner. Là, quasiment chaque fois, pour dire que c'est Dieu qui a donné. Et puis, moins souvent, j'ai donné, je leur ai donné tes paroles. Et là, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu lui as donné pouvoir. Et qu'est-ce que les disciples entendent? Que pour Jésus, ce qui compte, c'est ce que le Père lui a donné. Si Jésus est sauveur, c'est parce que le Père lui a donné. Et son bonheur à lui, au Fils, c'est ce que le Père lui donne. Donc en écoutant cette prière, Jésus leur pose un socle dans leur vie et on va voir à quel point ils vont être changés après, au long de leur... voilà. Donc, et le Père a donné pouvoir sur toute chair, afin que le Fils donne la vie éternelle, à qui? À qui? À ceux que tu lui as donnés. Alors, pour Jésus, tu es qui? Alors, comme je n'ai pas mes lunettes précises, je ne vois pas bien, hein, donc je fais comme ça. Pour Jésus, tu es qui? Là, c'est plus près, je vois. Pour Jésus, tu es qui? Pour Jésus, tu es qui? Celui que Dieu lui a donné. Et toi, tu veux une promotion? T'auras jamais promotion plus élevée que celle-là. Jamais, jamais, jamais. Imaginons que tu sois la meilleure cuisinière de la moitié du globe, bon, de France, et qu'on te donne, comme cuisinière à la présidence de la République. Ça valait le coup d'étudier. Hein? Enfin, voyez, bon, c'est... Voilà. Eh bien, Dieu, il ne te donne pas à la présidence, il te donne à Jésus. Et c'est là, ça, c'est la signification profonde de la sanctification, de la consécration, de vivre pour Dieu, de ne pas vivre pour soi, mais pour lui. Mais pourquoi tout ça? Et pourquoi Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie, c'est-à-dire conserver, être le... Vous voyez, il la perdra, mais celui qui la perd pour moi, et c'est là qu'il la trouve. Et bien, le sens profond de la consécration, c'est que Dieu m'a donné à Jésus. Et quand Paul écrit, vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous appartenez à celui qui est mort et ressuscité pour vous. Mais en amont même de la croix et de la résurrection, et bien en amont, donc bien avant et au-dessus de ma conversion, c'est Dieu qui m'a donné à Jésus. Et c'est pour ça que je me suis converti. te convertis parce que Dieu t'a donné à Jésus. Et non pas Dieu te donne à Jésus parce que tu t'es converti. Sinon, ça fait de toi le premier décideur et de Dieu un second. Or, Dieu est le premier décideur. Et c'est toi qui es second. C'est impressionnant. Mais tout ça, ce n'est pas de la philosophie. C'est de l'admiration. C'est de la reconnaissance. C'est de l'adoration. Pourquoi cette prière, il a fallu que les disciples l'entendent? Sinon, pour nourrir leur admiration envers leur maître Jésus et par le fait même, l'admiration pour l'incroyable... on va oser le pléonasme. Admiration pour l'admirable. Attachement de Jésus à son Père. Admirable obéissance de Jésus à son Père. Admirable amour de Jésus envers son Père. Or, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors ce verset, assez souvent, on s'appuie dessus pour expliquer à quelqu'un en quoi consiste la vie éternelle. Ce n'est pas simplement une vie où il n'y a plus trop de soucis et qui dure très, très, très longtemps. Non, la vie éternelle consiste à connaître le Père. Donc, très bien, ces paroles de Jésus, elles sont utiles pour expliquer à quelqu'un ou nous expliquer à nous-mêmes. Mais là, il ne les dit pas pour ça. Il les dit à Dieu. Alors, et Dieu, il le sait. Alors, pourquoi il dit ça à Dieu? C'est de l'admiration. C'est de l'admiration, c'est de l'amour pour le Père. Jésus est en train de dire, mais la vie éternelle, c'est toi, c'est qu'ils te connaissent, toi. C'est pas une information que Jésus donnerait au Père, l'idée est stupide. C'est de l'admiration. La tonalité de toute la prière, tout le chapitre, c'est à quel point le Père est précieux pour Jésus. Alors, leçon pour nous, prier, c'est au moins autant admirer Dieu que demander, au moins autant remercier que dire sa douleur, etc. C'est les deux, bien entendu. Hein? Voilà. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alors, pourquoi rajoute-t-il « et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » Mais parce que c'est si Jésus est venu et si c'est lui le sauveur et si hors de lui il n'y a aucun nom par lequel sur la terre entière par lequel nous puissions être sauvés, c'est par la volonté du Père. Jésus ne s'est pas tout seul déclaré incontournable sauveur. C'est Dieu qui le veut et qui l'envoie. Et c'est Dieu qui dit, celui-ci est mon fils, écoutez, bien-aimé, élu, en qui j'ai toute mon affection, tout mon plaisir, écoutez-le. C'est Dieu qui le dit. Et donc, même quand Jésus rajoute, la vie éternelle consiste, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est-à-dire, Jésus dit, la vie éternelle consiste à me connaître, moi, Jésus. Même là, il est en train de confesser que c'est la volonté de Dieu. Et là, on comprend un peu mieux c'est le verset qui est souvent répété depuis pas mal de temps dans différentes églises. « Je ne fais rien de ma propre initiative, je ne fais rien de ma volonté. Ce que je vois faire au Père, je le fais. » Je fais, mes paroles ne viennent pas de moi, elles viennent du Père, ce que je dis ce que j'entends du Père, etc. Et là, on comprend mieux. Le bonheur de Jésus, c'est le Père. Et en second, ce sont les siens. ses disciples. Mais en quoi? En ce que c'est le Père qui les lui a donnés. Donc, même le bonheur et le plaisir que Jésus trouve et trouvera éternellement dans ses rachetés, dans ce que, de manière imagée, l'Apocalypse appelle, et même avant, l'épouse, c'est parce que c'est le Père qui lui a donné. Verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre ». J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est la deuxième fois qu'il demande à Dieu de le glorifier. La gloire entre Dieu et Jésus, à leur échelle, je ne sais pas comment. C'est tellement haut que je ne sais pas les mots qui conviendraient. La gloire, ça n'a rien à voir avec ce que l'humanité appelle la gloire. C'est pas j'ai gagné le Tour de France, j'ai un salaire mirobolant, tout le monde m'admire, j'ai 18 millions de followers. C'est pas ça la gloire. Oui, ça c'est la vanité. C'est là et même la bouffonnerie. C'est paraître aux yeux de la créature. En fait, c'est une auto-idolâtrie. Quand j'ai besoin. Alors c'est horrible ce que je vais dire, je le dis donc pas loin des larmes, parce que je l'ai appris dans ma propre vie. Quand j'ai besoin que les autres m'admirent, je suis en train d'espérer recevoir des créatures ce qu'en vérité je ne peux recevoir que de Dieu. Alors, ce n'est pas que Dieu nous admire, ça c'est écrit nulle part, hein. Il nous aime, il nous connaît, il nous comble, il nous valorise. Nous sommes précieux, extrêmement précieux pour lui, hein, comme la prunelle de l'œil, ce qui est dit uniquement du peuple de Dieu. Voilà, donc glorifie-moi auprès de toi-même. Donc ce qui intéresse Jésus, c'est mais comment le Père le voit et ce qui se passe entre le Père et lui. Quand il dit « glorifie-moi », il y a zéro vanité là-dedans. Il y a zéro égocentrisme. Jésus n'est pas centré sur lui-même. Il faut que je devienne important, il faut que tout le monde m'admire. Et Père, s'il te plaît, fais quelque chose pour qu'on m'admire. Là, je suis en train de dire les pires âneries possibles. Juste pour montrer que ce n'est pas ça. Je reprends l'exemple des amoureux tout, qui découvrent. Hein, des fois, le paradis sur terre, c'est juste de regarder l'autre dans les yeux. Mais je fais semblant d'ironiser, juste pour souligner un contraste. Si rien que de regarder dans les yeux, et le cœur, il fait un mètre cube après. Et quand la personne aimée n'est pas là, le cœur il est petit comme un dé à coudre. Et dans les yeux. C'est une pâle illustration de ce que le Père représente pour Jésus. Quand il dit glorifie-moi auprès de toi. Ce qui, si vous voulez, rien n'intéresse Jésus sinon être auprès du Père. Et comme nous, on l'intéresse, eh bien, on l'intéresse vraiment, c'est de nous amener, nous, aussi auprès du Père. C'est bien ce qu'il dit, hein. Tu veux que là où je suis, il soit aussi avec moi. Vous voyez, là il y a une perspective qui va infiniment au-delà de ce qu'on pourrait appeler réussir sa vie sur terre. Et alors, auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. » Et donc, gloire qu'il a quittée, je ne sais pas, je sais plus si ça a été dit au début de la présidence ou dans une prière, et peut-être une prière, tu as quitté la gloire. Mais il l'avait déjà avant. Et pourquoi il l'avait déjà avant? Parce qu'il était auprès du Père. Là, on comprend. Là, avec ça, les disciples, ils auront vraiment mieux compris. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis perdu sans toi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si même Jésus il dit que son tout, c'est d'être auprès du Père, à plus forte raison, nous, disciples de Christ, eh bien, il nous faut dire, c'est auprès de toi j'ai tout et sans toi j'ai rien. Malheureusement, il arrive que des êtres humains fassent leur vie entière et à 85 ans, ils réalisent en fait que tout ce qu'ils ont cherché, c'était pas là, dans cette direction, alors que ce soit le finance, le sexuel, tout ce que vous voulez, la gloire terrestre, c'est tout ce dont leur cœur avait soif, c'était pas dans cette direction, mais c'était dans celle-là. Mais quel bonheur quand... Oui, en haut. En haut, voilà. Oui. Mais voilà, pas la direction horizontale quelque part, mais verticale. Donc quelle tristesse quand il faut arriver à 90 ans pour voilà, quelque part pour déchanter. Mais quel bonheur quand à 5 ans déjà, un cœur, il est captivé par Jésus. Alors le cœur pourra être séduit par ce que le monde offre en prétendant combler. Mais Jésus ne le laissera pas s'embarquer dans les séductions. Il le gardera. Et s'il tombe, il le relèvera. Verset 6. On est à peu près à combien là? J'ai besoin du chrono parce que quand je suis comme ça, je suis à moitié au ciel et je suis capable de faire pire. Et il a dit 1h15 et moi je suis capable de faire. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Vous voyez la différence entre le monde et puis les cœurs que le Père, bon ça s'appelle l'élection, ça s'appelle la prédestination, dont la Bible parle énormément. De nouveau, qui sont-ils les élus? Ceux que Dieu a donnés. Et alors, dans le chapitre, et Jésus le dit 5 ou 6 fois, ça dépend des manuscrits, parce qu'il y a un verset où, voilà, où ça peut être traduit de deux manières. Et au début du chapitre 18, c'est rappelé une fois de plus. Donc en tout, ça fait 6 ou 7 fois, les disciples sont désignés comme ceux que tu m'as donnés. Je vous en supplie, retenons-le ça. Marquez-le sur votre blouson, enfin en discret, hein, parce que ça dépend quand même qu'on ne vous amène pas en psychiatrie non plus après. Hein. Non, désolé, là, ça n'a rien à voir ce que je raconte. Pardon. Non, je voulais dire, des fois, on nous prend pour des fous. Si on dit un peu trop, Jésus dit, je ne t'ai pas vos perles au pourceau. Hein. Il le dit aussi. Bon, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Encore une fois, on le voit comment ça se passe dans les évangiles. Et c'est Dieu qui lui envoie des disciples. Hein, les deux premiers, ils étaient disciples de Jean-Baptiste, qui a dit, voici l'agneau de Dieu, et il le quitte pour suivre Jésus. Dieu lui envoie des disciples. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il leur manifeste le nom du Père. Et qu'est-ce qui intéresse Jésus, le Père? Ils étaient à toi, forcément, en tant que créateur, en tant que celui qui prédestine, etc. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. et ils ont gardé ta parole. Là, ici, à ce stade, Jésus ne dit pas dans la prière, et ils m'ont aimé, ils m'ont cru. Il le dit beaucoup dans les évangiles, au chapitre précédent, au chapitre 15, de diverses manières dans les chapitres précédents, j'ai un peu d'imprécision. Oui, si vous m'aimez, celui qui m'aime, chapitre 14, si quelqu'un m'aime, donc Jésus en parle que ses disciples l'aiment et doivent l'aimer. Mais ici, il dit, ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. C'est-à-dire qu'en premier, c'est une louange à Dieu que Jésus fait là, c'est de l'adoration. En premier, ce qu'il dit, c'est pas ils m'ont cru, ils m'ont écouté, c'est ils ont gardé ta parole. C'est incroyable comme il est décentré de lui-même. Maintenant, ils ont reconnu, et plus ça avance, plus c'est fort, enfin plus il appuie. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc, c'est un pléonasme là. Si tu m'as donné, ça vient de toi. Oui, mais il le fait exprès. Et donc, Jésus est en train de louer Dieu, de le remercier, d'admirer, de lui confier, de lui ouvrir son cœur. Et il est en train de lui dire, avec d'autres mots, mais ce qu'il y a de bien en eux, c'est qu'ils ont reconnu que ce qu'ils voient, ils ont vu en moi, c'est toi qui me l'as donné. Car je leur ai donc tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ah. Et pour une fois qu'il parle de ce que lui donne, c'est pour dire que ça vient du Père. Je leur ai donné les paroles du Fils et de l'Éternel, du Messie, de Dieu Fils. Oui. Parole de vie, parole divine, parole de Dieu, parole de salut. Mais que tu m'as donné. Alors si en lisant et relisant et en pleurant de joie ou de ce que vous voulez sur ce chapitre, si je ne deviens pas un peu plus humble et un peu plus décentré de moi-même, ben je ne sais pas ce qu'il nous faut alors, hein. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Alors ça c'est trop beau, parce qu'il le dit à Dieu. En fait les disciples, quand ils ont entendu ça, je ne sais pas si tout de suite ils ont compris ou plus tard, mais ils ont dû, à un moment ou à un autre, ils ont dû se dire, « Oh, il a dit une félicitation sur nous !»« Ah mais oui, j'ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. » Et on voit dans les évangiles à quel point c'est important pour Jésus, quand il dit à d'autres, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui que le Père a envoyé, pourquoi ne me recevez-vous pas? Et là il dit, ils les ont reçus. Vous comprenez, c'est comme un bravo que Jésus leur adresse. Mais il ne le dit pas à eux. Il le dit à Dieu. Et il dit à Dieu, mon bonheur, c'est qu'ils ont reçu ce que je leur transmettais de ta part. Mon bonheur, c'est qu'ils ont reçu ce qui venait de toi. Et on revient tout le temps à la même chose. Mon bonheur, c'est toi. Après, il ne faut pas s'étonner que dans l'évangile de Jean, il soit écrit trois fois, le Père aime le Fils, et que Jésus dit aussi, je vous parle ainsi afin que le monde sache que j'aime le Père. Je veux dire, si quelqu'un n'était pas convaincu du fait à quel point Jésus aime le Père, mais là, prenez un abonnement pour Jean 17, prenons, parce que je ne veux pas le manquer, moi. Hein. Ils les ont reçus, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus aurait pu simplement dire, ils m'ont reconnu comme le Messie. Amen, c'est écrit ailleurs. Mais là, il parle au Père et il dit, ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Et ces derniers mots, je prie pour ceux que tu m'as donnés, expliquent la signification de « je ne prie pas pour le monde ». Alors ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que d'autres soient sauvés du monde. Il le dit clairement. Il dit « tu me les as donnés du milieu du monde ». Donc d'un côté, ils en sont extraits et séparés, et ce n'est plus du même ordre. De l'autre côté, l'appel à croire et l'appel au salut continue à être proclamé. Mais ici, Jésus dit, je prie pour eux parce que tu me les as donnés. Et je ne prie pas pour le monde parce que tu ne m'as pas donné le monde. Je vais m'arrêter. Bientôt. Non, très bientôt. Je ne prie pas, pardon, verset 9, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et c'est bien de s'arrêter là, oui. Le sens de la prière entière, c'est à quel point le Père est tout pour Jésus. Et un sens second de cette prière, c'est que peu de paroles écrites dans la Bible sont aussi profitables aux chrétiens. Et la dernière particulièrement, Jésus dit, je prie pour eux. Alors, c'est écrit ailleurs, il intercède pour nous, mais je prie pour eux. Et désolé de le répéter, mais à ce moment-là, ce n'est pas à eux qu'il leur dit, il ne dit pas je prie pour vous. Il a dit à Pierre, je prierai pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Mais là, il le dit au Père, il dit, je prie pour eux, parce que tu me les as donnés. Je vais prendre 30 secondes de plus, et lire, sauter au milieu du verset 11, ou même le début du 11, « Je ne suis plus dans le monde. » Alors ça, quand Jésus dit ça, est-ce qu'il est sur terre? Est-ce que plus qu'être sur terre, il n'est pas déjà au ciel avec son Père? « Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. » Et donc c'est là où je voulais conclure là-dessus. « Et moi, je vais à toi, Père Saint. » Garde-les en ton nom. Et voilà le bonheur de Jésus. Tout recevoir du Père, tout devoir au Père, tout être et faire pour le Père et aller vers le Père. Pour Jésus, le bonheur suprême, c'est auprès du Père. Et quelle leçon pour ses disciples. Bonheur suprême auprès de toi, Seigneur Jésus, et transporté par toi. Auprès du Père. Amen.